2 минус 1 дорівнює 4, 5, 0.
2 moins 1 égale 4.5.0 de Julia
Gonchard
avec
Charlotte
Lignoux, Julia Gonchard et Clémence
Bordier.
Звуковий Création
супровід Марі-П'єр Лекок. Над записом працювали
Анаель Дрейєр,
Лола Моліна, Лельо Плото. Створено
Une création du
Théâtre de Poche Européenne,
enregistré le 3 juillet 2026 à la Cité internationale de la langue française.
2026 року в Cité internationale de la langue française.
Dans un immeuble du centre historique de Kiev, Julia est avec sa fille Stéphie dans l'appartement de son ami Anton. C'est un vétéran, il a une prothèse à la jambe. Il fume un joint au balcon, puis revient et prend Stéphie dans ses bras et la pose sur ses genoux. Son haleine est un mélange d'alcool et de cigarettes. Dans un coin du salon, un film d'horreur auquel personne ne prête attention passe à la télévision.
Les amis de ma mère sentent l'alcool de la veille. On est submergé par un sentiment d'irréalité. Mon ordi est d'une marque américaine. Il n'a pas de clavier cyrillique, alors je tape à l'aveugle. Une pensée disparaît, s'évapore. La fraîcheur est agréable, comme pendant l'école, le matin, l'été et les vacances. La pensée disparaît, s'évapore. La fraîcheur est agréable, comme pendant l'école, le matin, l'été, les vacances. Durant lesquelles j'ai lu le programme obligatoire de littérature étrangère, ukrainienne et russe, fini. École, matin, école, La pensée disparaît. S'évapore. La fraîcheur est agréable. Comme pendant l'école. Le matin. L'été. Les vacances. La pensée disparaît. S'évapore. Je réfléchis. Est-ce que, quelque part dans une réalité parallèle, il existe un endroit où la littérature et la culture russe ne sont pas prédatrices mais inoffensives, comme chez les Suédois? Mais qui sait ce que la Suède a réellement vécu et connu? Après tout, la Suède était aussi un empire autrefois.
5 bars d'immeubles dans une petite ville à 30 minutes de Kiev. Dans l'un d'eux, l'appartement de Julia. C'est un 2 pièces avec une cuisine. Il est au 21e étage. De sa fenêtre, Julia voit la forêt qui s'étend à perte de vue et le ciel. C'est le crépuscule, le ciel est rosé. Au loin, Julia aperçoit un drone qui lance une bombe. Dans quelques secondes, la bombe va s'éclater au sol. Julia pense, quelqu'un va-t-il mourir ?
Quel thé ? Quel thé tu veux, oui ? Tu veux quoi ?
Je te taquine, ma grenouille. Ну чому так багато звуків твоїх має бути в просторі?
Сергій, écoute, les amis disent que les bombardiers stratégiques TU-95 ont décollé de la base aérienne d'Engels et ont lancé des missiles.
Ну і хорошо.
Mais tu as entendu? Tu as entendu?
Ще вибухи.
Tu as entendu?
Так, справді близько 2 вибухи.
Oui. C'est la première fois que je les entends aussi près.
Не хвилюйся, ти в повній безпеці.
Pourquoi tu as dit que c'était audacieux d'écrire sur moi? Sur le fait que je fais caca et tout ça?
Ну, що ти береш на себе цю сміливість і нахабство вважати, що ти для всіх цікава?
Et qu'est-ce qui est intéressant alors?
Цікаво вигадати персонажа, якого немає в реальності.
Et pourquoi c'est plus intéressant d'inventer un personnage qui n'existe pas dans la réalité?
Тому що реальність не настільки цікава, як вигадка.
Comment dit-on fontanelle en ukrainien? Ce que les bébés ont sur la tête?
Кругорічка.
Le mot ukrainien pour fontanelle sur la tête des bébés sonne comme
кругорічка.
Un ruisseau qui tourne en rond.
Кругорічка.
J'étais dans la voiture avec Stéphie et j'ai vu l'automne aux cheveux violets. C'était une jeune fille qui sortait du bureau de poste, tandis que j'attendais un colis de Martina de Leipzig. Cela fait 2 mois que Stéphie est née. Tu sais, j'aurais mieux fait de venir chercher ton colis moi-même, Martina. C'est la Deutsche Post. Ils ne savent pas ce que c'est la Nova Pochta, la poste ukrainienne. On envoie le colis et tu l'as dès le lendemain. Et si tu ne gardes pas l'article, pas de frais de retour. Regarde comme sa fontanelle pulse et palpite. Même si je ne savais pas comment ça se disait, j'ai déjà vu ce que ça faisait. Mais maintenant que ce mot sort de ma bouche,
Кругорічка.
Mes yeux se remplissent de larmes.
Кругорічка.
What does this war mean for the future of mankind and today's civilization?
Qu'est-ce que cette guerre signifie pour les générations à venir et la civilisation actuelle? Quand nous, Stéphie et moi, nous regardons le monde et les pigeons s'envoler, j'ai peur de parler d'eux comme de simples pigeons, car je sens que ma fille voit plus et mieux que moi. Aujourd'hui, Sergueï a donné 20 grivnas à un SDF. Le SDF a dit que sa femme l'a quitté,
зачепилась за більшу корягу.
Qu'elle a attrapé un poisson beaucoup plus gros que lui. Et qu'en réalité,
є свій будинок та мама в ньому.
Il a une maison et même que sa mère y habite. Une maison, un SDF possède une maison. J'ai ri. Je ris souvent aux éclats depuis que Stéphie est née.
Julia descend du funiculaire en bas d'une colline de Kiev.
Kiev.
Elle marche dans la rue, passe sous un porche. Elle regarde un graffiti sur le mur représentant un chien qui pisse sur des soldats russes. Elle entre dans la petite cour où se trouve le théâtre des dramaturges. Elle descend à l'intersous-sol d'un petit immeuble de 2 étages. Le théâtre est une grande pièce. Le plafond est en tôle, les murs sont en briques blanches. Il y a 3 fenêtres calfeutrées. Pourtant, des petits traits de lumière traversent la pièce. Ils éclairent le sol carrelé, marron et beige. C'est le sol Twin Peaks, comme l'appelle l'équipe du théâtre.
Je me fixe un objectif. Écrire un livre sur mon monde et ma réalité. Je sais ce que c'est l'autocensure. J'efface, je réécris. Ces mots pièges, mots matons. Il faut que je le fasse car la mort n'est jamais loin. J'ai écrit et j'ai réfléchi. Peut-être pourrais-je vous décrire mon accouchement. Ça m'est revenu aujourd'hui comment Stéphie s'extirpait de mon corps. Rien que d'y penser, ça te remue. Comment c'était exactement? Quand Stéphie s'arrachait de mon corps, comme dans Alien, sa tête s'est coincée. Elle sortait et rentrait aussitôt, comme si elle voulait se raccrocher à l'intérieur. Des va-et-vient. La fontanelle de la vie. Quand j'entends la sirène anti-aérienne retentir à 4 ou 5 heures du matin, je me jette sur Telegram pour lire « 11 Tushki ont été lancés ». Tushka, c'est un avion russe, celui qui porte des missiles. YouTube a mis des limites d'âge pour mon contenu. YouTube possède l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Il a une sorte d'algorithme. Sergi a fait le montage d'une vidéo qu'il a filmée à l'Est pendant sa rotation en tant qu'infirmier de guerre. Ça fait très peur. On y voit des parties de corps qu'on emmène à la morgue. Et ce ne sont plus les garçons nés en 1998. On essaye de les identifier. On pensait qu'il y avait 2 personnes, mais il s'avère qu'il y en avait 3.
Une délégation d'Européens est venue nous rendre visite dans notre théâtre des dramaturges chez nous, en Ukraine, chez nous, à Kyiv. Il y avait un Allemand, Alex, dans cette délégation. Il voulait savoir pourquoi l'Europe doutait tellement de l'Ukraine, et qu'est-ce qu'ils nous ont fait les poètes russes qui sont morts il y a longtemps. Cela m'a fait sortir de mes gonds, ce que je lui ai fait comprendre.
Il était le seul à parler ukrainien, étant né à Kyiv et ayant passé les premières années de sa vie là-bas. C'est lui qui traduisait, car les autres ne captaient pas un mot en anglais. Il a tout traduit comme un vrai helper, un collabo russe. Une grande discussion a éclaté quand j'ai dit qu'on était en train de préparer une pièce sur Stepan Bandera. Tania est assise en face et se met à rigoler. Alex, l'Allemand, a tout de suite bondi, a dit que Bandera était un collabo des nazis et c'est là qu'on s'est lancé dans une longue discussion. Tania essaye de lui expliquer la différence entre le nationalisme et le patriotisme. Max, notre directeur, dit que pour survivre, on a tous besoin d'être un peu nationaliste en ce moment. Si la Russie vient chez nous un jour, nous, notre théâtre, serons les premières victimes d'un nettoyage ethnique. Ce qu'Alex a traduit par « les nationalistes ukrainiens seront les premiers à être purgés par les Russes ». Ce que je me suis empêchée de corriger très agacée. J'ai travaillé avec quelques Russes. Tous les dramaturges n'ont pas eu la chance de naître à Kyiv. Tous n'ont pas eu la chance de naître à Moscou. À la maison, nous continuons de regarder un film, No Evil. Stéphie s'amuse en grimpant sur l'aspirateur robot. Sergi remarque que les Hollandais dans le film n'ont même pas essayé de se battre et de se défendre, n'ont pas cherché d'armes, ne serait-ce qu'un couteau de cuisine. Je vais pas spoiler, mais ce film m'a aidé à trouver la réponse à la question de ce débile d'Allemand d'adoption d'Alex. Pourquoi l'Europe est si uncertain about Ukraine?
Julia prend le métro. Elle descend à une station. Elle regarde les employés du McDonald's d'à côté qui se sont réfugiés dans le métro, qui sert d'abri en cas d'alerte. Les employés en profitent pour faire leur pause déjeuner et enfilent goulûment un hamburger en uniforme.
Le matin, j'ai acheté des billets à destination de Leipzig pour le 29. Mais j'ai découvert à 16h que Steffi a besoin de son propre passeport et que cela prend un max de temps, 2 semaines et demie en procédure accélérée. Nous sommes repartis à la gare, échanger nos billets. Il faut être présent physiquement pour retourner les billets au guichet, avec une procuration de la personne qui voyage également avec nous, la grand-mère de Steffi. Curieusement, la caissière nous a assuré que je pouvais écrire moi-même cette procuration de sa part et que tout cela n'était que de la paperasse. En donnant des informations personnelles, où j'habite, avec mon numéro de passeport et l'instance par qui il était délivré. Le passeport de la grand-mère de Steffi a été délivré par la subdivision administrative du ministère des Affaires intérieures du district de Leningrad de la ville de Kyiv. J'ai d'abord cru que c'était une erreur. C a expliqué que c'était l'ancien nom du district de Sviatoshino, à Kyiv. Pendant que je remplissais les formalités, le guichet numéro 24 a fermé et j'ai été envoyée vers un autre guichet, au numéro 21. Dans la queue, une femme bien apprêtée m'a dit qu'à cause de soins dentaires qu'elle a besoin de faire à Kyiv, elle avait dû changer ses billets pour Londres. Elle m'a expliqué qu'elle va de Kyiv à Helm et de là-bas, elle va prendre un taxi pour 50 euros et qu'elle partage avec quelqu'un d'autre pour réduire les frais, bien entendu, et qu'après, ce serait plus simple car il y a de nombreux vols directs de Lublin jusqu'à Londres. Son train arrive à 18h et son avion décolle à 21h, ce qui est normalement suffisant pour une correspondance. Bien sûr, bon, si le train arrive à l'heure. Mais même s'il est retardé d'une heure, elle arrivera toujours à temps pour le prendre. J'ai fait une tentative de partager aussi mon histoire sur le passeport de Steffi, mais bien sûr sans succès, parce que la fontanelle de la dame était sous pression et bourdonnait comme mes seins engorgés avant la tétée du matin. Je suis enfant unique. J'ai du mal à m'imposer dans la conversation, alors j'abandonne rapidement et laisse l'autre être dans son jus. Nous nous sommes plongés dans l'ambiance cyberpunk de la gare. Des néons publicitaires et des logos clignotent de tous les côtés. À la pharmacie, un robot nous a servi en un clin d'œil un médicament commandé à l'avance. Les graffitis qui font mal aux yeux. Une personne évanouie sur le sol. La foule qui s'est formée tout autour. Une caisse qui reçoit les militaires et les personnes en situation de handicap. Plein de personnages bizarres, un peu zinzin à la gare. Des à moitié fous et des jeunes filles en surpyjama de personnages mignons ou en jupe plissée de couleur fluo qui gardent leurs affaires dans des casiers de consigne. Des fouilles minutieuses de sacs à l'entrée comme en aéroport. Un militaire muni d'une arme qui marche dans la rue. Une bannière. Rejoint USAG. Union culturelle d'avant-garde. Les avant-gardistes en action, c'est-à-dire à la guerre. Et un bâtiment près de la gare, réduit en un tas de débris. Tout comme le vieux Colisée, au milieu de ce bâtiment dévasté, pullule plein d'asticots. Les bus, avec une multitude d'itinéraires, Prague, Vienne, des militaires, encore des militaires qui achètent des billets, dont l'un avec une prothèse à la place d'une jambe. Un policier montre le chemin à un militaire et partout, des tas de gens, des tas de voitures. McDo. Ce vestige d'une vie normale reste toujours ouvert.
Julia est dans la gare. Elle regarde l'immense pharmacie robotisée. Il y a des centaines de tiroirs avec des centaines de boîtes de médicaments. Julia fixe la boîte verte située dans le tiroir au croisement du 21e étage et de la 4e rangée. La boîte verte tombe dans le bac. Julia la prend et sort de la gare.
Je sais pas pourquoi, mais ma présence fait détendre les sphincters de la bouche des gens de sorte à provoquer de la diarrhée verbale qui n'en finit pas. Je pense pas que j'arrive à imiter avec justesse le style original de tous ces personnages. Je vais plutôt l'enregistrer sur un dictaphone pour le décoder après. Les jambes et la tête étaient séparées du reste du corps. Le sac plastique noir n'est pas du tout noir, mais blanc. Dans la fiction comme dans la vie, il faut savoir faire des sacrifices. C'est de la cruauté justifiée. Elle me livre en 5 minutes tellement de choses sur son petit-fils, le fils de sa fille, pour qui ils ont dû aussi faire un passeport, et c'est elle qui était aussi chargée de le récupérer. C'est bien mieux que les postiers, tout ça grâce à des connaissances qu'ils avaient au ministère de l'Intérieur. Tout ce qu'on peut obtenir, c'est toujours grâce aux connaissances au ministère de l'Intérieur. À mon 3e guichet, je me suis mise à protester avec des cris stridents que j'ai un petit enfant. En vain, la caissière venait de prendre sa pause. Alors, j'ai annoncé que j'allais déposer une plainte écrite. Cela fait son effet, et mes documents ont été enfin acceptés. Avec des grognements, certes, mais quand même. Du cyberpunk total. Des innovations techniques aux côtés d'une bureaucratie déraillée. Société sous-développée. Mais pourquoi sous-développée? Pourquoi ne pas relayer les caissières au guichet? L'une part et une autre prend sa place. Et les gens n'ont pas besoin de courir partout pour trouver un guichet qui est ouvert.
Julia est dans sa chambre. Elle somnole, allongée sur son matelas posé à même le sol. Stéphie dort, elle aussi, allongée sur le tapis vert pomme. On dirait de l'herbe synthétique. Une alarme retentit. Julia agrippe Stéphie et pour se protéger de l'éventuel éclat de la fenêtre, elles vont se cacher dans le couloir. Stéphie s'est réveillée. Elle crapahute dans le corridor. Au fond, on aperçoit le bureau en bordel de Julia. Il y a quelques Legos de Stéphie, des restes d'un repas, son bloc-notes. C'est là que Julia s'installe la nuit pour écrire lorsque Stéphie dort. Son bureau est face à la fenêtre. Elle aperçoit au loin les lumières scintillantes de Kiev.
30 вересня 2023 рік. Вночі Сергій сидів довго за компом, відправляв фільми на фестивалі, видрочував свій короткий метр. Я позаздрила його витривалості. Збирався. Жалівся, що можна ж все поступово, не в останній день. Помився, постригся, поголився. Прийшов до мене в ліжко і лежав близько, близько, тулився. Сказав, щоб я його гріла. Я крізь сон гріла. Ми часто кажемо один одному «я тебе люблю», навіть коли сердимося. Після пологів я сказала один раз «я тебе ненавиджу», і він знітився. Гормони, ніби тумблер, працювали тільки на «дуже люблю до сліз щаслива» та «дуже ненавиджу до сліз нещасна». Він тоді щойно повернувся з вишколу госпітальєрів. Моє світло-русяве волосся з лівого боку, ближче до плечей, злиплося від молока. Стефі відригує. Нахилився мене поцілувати. Я поїхав. Зранку він їхав на ротацію, 2 тижні в лимані Донецької області. На плечі автомат, у футболці з написом «Госпітальєри» та 2 рюкзаками все кольору хакі. Прийшов до мене в ліжко і лежав близько, близько, тулився. Сказав, щоб я його гріла. Я крізь сон гріла.
30 septembre 2023.
Я тебе люблю.
La nuit, Sergi a passé beaucoup de temps devant son ordinateur, a envoyé plusieurs films au festival, a peaufiné comme un malade son court-métrage. J'ai dit que j'étais jalouse de son endurance. Il se préparait. Il se plaignait qu'on devait tout faire petit à petit, pas au dernier moment.
J'allais.
Il a pris sa douche.
Помылся.
Il s'est coupé les cheveux.
Постригся.
Il s'est rasé.
Помылся.
Il m'a rejoint au lit, blotti contre moi, tout près de moi.
Близко.
Il m'a dit de le réchauffer.
Тулився.
Je le réchauffais à moitié endormi.
Грів.
Nous nous disons souvent je t'aime.
Люблю.
Même quand nous sommes en colère. Après l'accouchement, je lui ai dit une fois, je te déteste, et il est devenu tout pâle. Mes hormones étaient comme un interrupteur coincé sur « Je t'aime, je suis heureuse en pleurer » ou « Je te déteste, je suis malheureuse en pleurer » Il revenait de l'entraînement des infirmiers de guerre. Mes cheveux châtain clair étaient tout collés par le lait sur le côté gauche près des épaules. Stéphie régurgite. Il s'est penché pour m'embrasser. Je pars. Le matin, il partait pour une rotation. Deux semaines à Liman, dans la région de Donetsk. Son fusil sur l'épaule, vêtu d'un t-shirt avec le logo bataillon de volontaires hospitaliers et deux sacs à dos, tout ça couleur kaki. Il est venu au lit et s'est blotti contre moi, tout près de moi. Il m'a dit de le réchauffer. À moitié endormi, je le réchauffais. Je t'aime. Je te déteste. À moitié endormi, je le réchauffais. Près de moi. Tout près de moi.